Quand on est en autonomie complète, t'es obligé d'aller, entre guillemets, vite parce que t'es limité dans ton eau ou dans ta nourriture ou dans ton gaz ou par la saison aussi. Et donc, à un moment donné, il va faire trop froid ou si c'est une rivière qui va monter en crue, tu dois y arriver avant telle date parce qu'elle est encore basse. Sinon, elle est trop haute et tu passes pas. C'est un peu comme un alignement de planètes. Il faut que tout soit grosso modo aligné pour que ça passe.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storyfic. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, et même un peu plus souvent cette fin d'année, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storyfic.com. C'est avec Louis-Philippe Long que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Celui que l'on appelle aussi Luffy ici, ou Hermit Virgin en Australie, a été aventurier de l'année en 2016 pour avoir réussi l'exploit de traverser 3 déserts en un an, à pied, en autonomie complète. Il est consultant pour ceux qui préparent des expés et cela se sent, tu verras, il donne plein de détails pratico-pratiques sur ses expés et c'est passionnant, on a l'impression d'y être. Et ne manque surtout pas son imitation du dromadaire d'Australie, ça vaut le détour. En cette fin d'année, cet aventurier au grand cœur va vivre une aventure un peu particulière. Suspendu sur une plateforme pendant 10 jours, exploit original qu'il a conçu pour soutenir à sa façon Viva for Life. Bonjour Louis-Philippe.
Mais bonjour NB.
Ça fait plaisir de t'accueillir ici à Namur.
En plus, il faisait beau, donc voilà, je suis content d'être là.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Louis-Philippe Long, je suis né à Moucron, je vis depuis 25 ans à Bruxelles, j'ai 44 ans et j'exerce, on va dire, deux métiers. Un métier où je suis dans la consultance, plutôt dans la protection des données aujourd'hui, donc la GDPR ou RGPD. Et j'ai une passion qui est un peu mon deuxième métier qui commence à grandir, qui est aventurier et explorateur. Il y a une différence entre les deux. L'aventurier prend des risques, donc l'aventure c'est lié à la probabilité de réussir ce qu'on entreprend. Et l'explorateur revient avec un enseignement scientifique.
Alors moi, j'ai lu ton parcours, donc, qui avait commencé fort dans le corporate, et tu y es encore. Hein,
dans, oui.
Voilà, et donc tu m'aides et dans ta vie, parce que j'avais interviewé quelqu'un que tu connais, Thomas Tirtio.
Oui, on s'est rencontrés une fois, oui.
Voilà, il disait qu'il fallait mettre plus de « et » dans sa vie. On n'est pas obligé entre choisir entre être explorateur ou être entrepreneur ou quoi. Il y a moyen de faire des « et ».
On met souvent, enfin on met pas souvent, mais quasi tout le temps dans le monde occidental. On met tout le monde dans des cases et dans des boîtes. Et donc, c'est comme si on peut pas être pompier et acteur. Bah si, on peut être pompier et acteur. Et on peut donc travailler dans le monde de l'entreprise et être aventurier.
Oui, tout à fait. Ça, tu en fais la démonstration très régulièrement. Alors, l'aventure avec toi et l'exploration, plus exactement, ça a commencé comment ? C'était plutôt un déclic ou un long parcours ?
Le job ou la passion pour faire des expéditions n'est pas venu comme ça du tout. Donc, bizarrement, je n'ai pas été inspiré par quelqu'un. Donc, je ne connaissais même pas Alain Hubert, qui était en francophonie le cador des explorateurs en Belgique. C'est arrivé par une suite d'événements, quoi. Le premier événement, voilà, je travaillais dans une société et à ce moment-là, je devais pour la société aller à New York pendant 6 mois. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu la crise de 2001 avec en plus les terrorismes et les avions qu'on a mis dans les tours jumelles il y a 20 ans, hein, grosso modo. Donc ça, c'était le premier déclic qui a fait qu'au lieu d'aller à New York, on m'a envoyé à Singapour. Et il y a un gars qui revenait de Singapour et qui m'a dit « il faut que tu fasses la plongée sous-marine ». Puis je suis arrivé à Singapour, une semaine ou deux après que j'étais grosso modo installé, j'ai été voir le club de plongée, je me suis inscrit et quelques semaines plus tard, voilà, j'allais plonger en mer de Chine. Et puis à un moment donné, quand on aime la plongée, qui était donc ma première passion, on se dit qu'on veut aller voir la Grande Barrière de Corail en Australie, donc on se retrouve quelques années plus tard en Australie avec tout son matériel de plongée, et on se dit qu'on va faire le tour de l'Australie. Donc j'ai fait le tour de l'Australie et quelques autres îles, et je faisais de la plongée, et j'ai commencé à faire de la randonnée, en fait. Je suis tombé sur le livre du Lonely Planet, Walking in Australia, et après, quelques mois plus tard, le Walking in New Zealand. Et des deux bouquins, je crois que j'ai fait à peu près la moitié des randos les plus connus, et après un an, j'approchais les 2000 km de randonnée, quasi tout le temps en solo.
Ah,
Et c'est là que j'ai appris. Alors, je savais camper parce que j'ai fait des scouts. Je savais faire un feu aussi. Mais après, il y a des choses. C'est utiliser un réchaud que j'avais pas vraiment fait. Dormir dans la neige, ce genre de choses. Tout d'un coup, manquer d'eau, se perdre sur le chemin. Et puis, à un moment donné, il y a cette forme d'excitation qu'on a lorsqu'on est perdu et qu'on retrouve le chemin, surtout. C'est quand même agréable de retrouver le chemin, ça. C'est plutôt utile. Mais il y a un côté de dire, surtout en Australie, c'est des très, très grands espaces. Tout d'un coup, on marche dans des endroits où on se dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là. Et c'est en revenant en Belgique, commencer à parler des manières de faire des expéditions ou des treks, c'est-à-dire le faire en autonomie complète, c'est-à-dire de transporter tout avec soi, qui permet d'aller finalement plus loin ou d'éviter une certaine logistique de devoir aller une semaine ou deux avant, aller déposer de la nourriture ou de l'eau dans le désert, ce qui est extrêmement coûteux, parce qu'il faut louer un 4x4 et aller le faire, ou payer quelqu'un qui le fasse à sa place. Mais si on se dit, je pars du point A, je vais au point B, je transporte tout sur le dos ou en tirant une charrette, bah ça coûte beaucoup moins. Et en Belgique, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des idées. Et donc, c'est un peu devenu, je ne vais pas dire ma marque de fabrique, mais voilà, les expéditions à long terme en autonomie, c'est vraiment ce que je fais de mieux. C'est là où j'en ai fait le plus. Et puis, à un moment donné, voilà, je revenais en Belgique et je rencontre l'auteur Sylvain Tesson.
Écrivain voyageur.
Oui. Voilà. On a papoté et puis il avait vu, j'avais fait une expo photo d'ailleurs sur les photos de ce premier voyage en Australie, Nouvelle-Zélande et quelques îles de l'Océanie. Il m'a quelque part encouragé. C'est comme si j'avais déjà un pied du côté de la ligne de l'aventure et un pied du côté, on va dire, très casanier. Et il m'a dit, mais si t'aimes bien ça, continue, fais tes propres expés. Et pouf, j'ai mis le pied de l'autre côté. Et quelques mois plus tard, je repartais en Australie pendant un an. Et là, bah, j'ai fait garçon de café, j'ai adoré ce job, en préparant mes trois premières expéditions, il y a 15 ans.
Ok, donc j'avais vu aussi que t'avais eu un déclic avec Alone Across Australia, c'est pas possible? T'avais pas vu un film qui t'avait donné un petit coup de pouce en plus?
En randonnée dans les Grampians, qui est un parc national dans le Victoria, donc pas trop loin de Melbourne, on va dire, je tombe sur un couple. Et puis ils me disent, bah écoute, t'es sympa, tu peux nous raconter ton voyage, parce qu'ils avaient compris que je faisais le tour de l'Australie avec la voiture et que je faisais et de la plongée et de la randonnée. Et ils m'ont invité chez eux à Adélaïde. Et le premier soir, j'ai fait deux soirs chez eux, il y a ce film Alone Across Australia qui passe à la télé. Et qui est l'histoire de John Muir, qui est pour moi le plus grand aventurier australien, le numéro 2 au monde, entre guillemets, après Mike Horn. Ils sont assez différents dans ce qu'ils font. Et lui avait fait, enfin, cette histoire de Alone Across Australia, c'est quand même un des trucs les plus dingues qui a jamais été fait, c'est traverser toute l'Australie en autonomie, du sud au nord, pendant 128 jours. Enfin, il a mis 128 jours. Il a réussi à sa quatrième tentative sur 10 ans de préparation. Donc, un truc vraiment très difficile.
Il connaissait les plantes sauvages comestibles, alors?
Exactement.
On ne pas se la jouer Into the Wild et s'empoisonner.
Oui, bah, il se les joue Into the Wild, à part qu'il s'est bien formé. Par exemple, il y a des melons comestibles dans le désert australien. Je crois qu'il y a 7 ou 8 variétés, mais il n'y en a que 2 qui sont comestibles, les autres c'est du poison. On ne sait même pas qu'on va avoir une mauvaise chasse, et ça peut être pire, quoi. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à la mort, mais être très malade en expédition, si on perd ce qu'on a mangé, qu'on perd de l'eau, enfin, ça peut être vraiment dangereux avec l'insolation,
ouais,
ça peut être très très grave. Et surtout, trouver de l'eau dans le désert, ça je ne sais pas faire, et lui, ben, il sait.
Ah oui.
Ben, il faut souvent creuser, il faut suivre les lits des rivières asséchées, dans certains coudes de rivière, il faut creuser, mais parfois il faut creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc on peut passer une journée, mais alors oui, si dessous on peut remplir une jerrycan de 20 litres d'eau, on a de l'eau pour une semaine, quoi. Donc, mais on peut ne rien trouver aussi.
Ouais.
C'est vraiment pas évident. Les aborigènes avaient creusé des puits, et donc quand il y avait des pluies diluviennes, ces puits se remplissaient et tenaient peut-être 10 ans, 20 ans, jusqu'à la prochaine pluie. Après, évidemment, ils connaissaient les rivières aussi, mais en tout cas, c'est clair que les aborigènes, et encore au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui y vont encore dans le désert de temps en temps, ce sont les personnes qui connaissent le mieux la vraie survie, quoi. Pour moi, même plus que ceux qui vivent en Amazonie ou dans les jungles, où là, l'eau, ben, elle est à profusion, entre guillemets, et la nourriture aussi. Après, il y a des bébêtes, entre guillemets, dangereuses, qui piquent et ce genre de choses. Il y en a aussi un peu en Australie. Mais dans les déserts, ben, on n'est vraiment pas adapté pour ça, quoi. On ne vit pas, on survit au jour le jour.
Ouais, on va en parler, puisque tu n'en as pas fait qu'un. Tu allies souvent des bonnes causes à tes expéditions. C'est important pour toi de donner du sens?
Oui, ben, y a toujours évidemment une partie d'ego. Le premier volet de l'égoïsme, c'est déjà de choisir son projet. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, on voudrait que tu fasses, je sais pas moi, le Mont Blanc bah, si j'ai pas envie de faire le Mont Blanc, je le ferai pas. Et donc, ce que je veux, c'est mes propres projets. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde. Mais si je peux rajouter un élément scientifique utile, je le fais. Et si en plus je peux rajouter aussi un volet, dire avec un message écologique, j'essaye de le faire aussi. Et il y a, pour moi, les deux. Le message principal des expéditions que j'ai faites, c'était principalement autour du thème de l'eau. Dans les déserts, c'est d'expliquer comment je peux vivre un mois dans le désert avec une centaine de litres d'eau, alors que c'est ce qu'on va consommer en une journée par personne en Belgique. Donc on peut faire mieux. Alors, je dis pas qu'il faut diminuer de 50%, ce serait déjà énorme, mais 20 ou 30%, c'est clairement facile et jouable, quoi. C'est des bons gestes à avoir. On les connaît, mais on les pratique pas. L'eau n'est pas encore assez chère, même si l'énergie et l'électricité même n'est peut-être pas encore assez chère non plus pour qu'on réfléchisse. Et après, il y a évidemment la pollution de l'eau. Donc, j'ai fait des expéditions en kayak et là, j'ai vu de la pollution. J'ai traversé une partie du continent de plastique aussi en voilier. Enfin, en voilier en bateau, c'était pas en voilier, mais en bateau. Donc, la pollution, elle est clairement là et elle est néfaste pour nous et puis pour tout le reste.
Oui, c'est vrai qu'il y en a déjà plusieurs dans le podcast qui en ont parlé, avec Ben Lecomte qui avait traversé à la nage le vortex de plastique,
oui,
du Pacifique.
Il fait partie aussi des très grands de ce monde, enfin, en tout cas du monde de l'aventure. C'est...
Ouais,
je ne le ferai pas. je le ferai pas. Même la Manche, je ne le ferai pas à la nage. En kayak, oui, mais
chacun
pas à la nage.
Chacun son truc, mais t'as fait pas voilà. Mal, hein, on va en parler. Et il y a autre chose aussi dans tes projets Bonne Cause, c'est toi aussi, tu envisages de planter des arbres.
Voilà, j'ai un life goal, on dirait en anglais, donc un objectif de vie, entre guillemets, à part des projets que je veux réussir, mais des projets que j'ai envie de faire, que je ne vais jamais faire. Mais celui-là, c'est quelque part le plus grand objectif de ma vie, c'est de planter 1 milliard d'arbres. Alors, tout seul, ce n'est pas possible. Chaque année, on a le tree planting avec le Jean Goodall.
Ça, c'est dans quel pays, ça?
Ça se fait en Belgique. Ça se fait en Belgique. Mais il y a plusieurs pays qui le font. Oui, oui. Donc, généralement, c'est qu'il y a des sponsors, eux payent pour un arbre en Belgique, et pour une dizaine d'arbres en équivalent en plus au Burundi. Donc okay. Ça fait déjà depuis que l'action existe, c'est des millions d'arbres qui ont déjà été plantés. C'est toujours rien à côté du déboisement qui est fait malheureusement en Amazonie. Je pense qu'on ne faut même
en
pas
Afrique
en parler,
aussi.
On est au courant. En Afrique aussi.
On en parle au courant.
Et donc, voilà. Et donc, moins 1 milliard d'arbres, c'est un très gros chiffre. Parce que 1 million d'arbres, en moyenne, un arbre coûte aujourd'hui entre 1 et 2 euros. Je crois que c'est hors terrain. Mais idéalement, voilà. Donc, idéalement, je dois devenir riche. J'ai une idée pour ça. si je pouvais, c'est viser ce milliard d'arbres. Si j'arrive qu'à 10 millions, c'est déjà génial. Hein.
Ouais. Tu as été aventurier européen de l'année en 2016. Ça, c'est quand même une belle récompense. Ça, c'est parce que tu avais fait sur cette année-là les trois déserts en autonomie. C'était ça qui a été couronné.
Oui.
Hein. Les Australiens te nomment plutôt le Mad Belgian.
Ouais. Oui, c'était le Crazy Belgian jusqu'en 2018. Et puis, je suis revenu faire une expédition en Tasmanie. Et là, je ne sais pas si c'est un level au-dessus. Ils ont mis le Mad Belgian. Donc, là, entre le fou et le gros malade ou le taré. C'est un peu ça, c'est plus le taré. Mais c'est clair que voilà, cette expédition en Tasmanie était la plus longue, la plus dure et la plus dangereuse.
On va en parler parce que c'était juste après.
C'était un truc de dingue, en effet.
Mais donc, on va parler de ces fameux trois déserts. Donc, le premier que tu as fait, c'était la vallée de la mort, c'est
oui.
ça. Et donc, 250 km en autonomie complète et sac à dos. Ça t'a pris combien de temps?
8 jours.
8 jours. J'ai une question de ma petite fille pour toi.
Combien tu as bu d'eau en traversant le désert?
Voilà, 8
voilà.
jours. Combien de flotte?
Combien de flotte? Beaucoup et jamais assez. On part en moyenne, avant de commencer, grosso modo, on a 4 litres d'eau par jour et puis on prend une réserve au cas où. Pour la vallée de la mort, je crois que j'avais 26 litres au départ.
D'accord.
Et j'en ai trouvé un peu en cours de route parce que j'ai eu un peu de chance qu'un bon 3-4 semaines avant d'arriver, il y a eu une grosse inondation qui avait d'ailleurs détruite une route bitumée qui était un peu ennuyeux parce que c'est-à-dire que dans le nord de la vallée de la mort, les secours n'étaient pas possibles en voiture, entre guillemets, parce que la route avait reculé de 2 mètres, donc Elle s'était affaissée d'un mètre aussi, donc là, un 4x4 ne passait même pas.
Plus. Ouais.
C'était l'hélico, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Et voilà. Tandis que venir me chercher... Donc, il faut savoir que le parc national de la Vallée de la Mort est assez longitudinal et qu'il y a une route qui fait justement la longueur, à part que moi, j'étais en off-track, c'est-à-dire hors des sentiers battus, mais qu'à vol d'oiseau, je suis entre 500 mètres, 5 peut-être max, de cette route. Donc, si j'avais un problème, venir me chercher, on prend la route et puis il passe peut-être en quadrillage dans la route ou il vient me chercher à pied si je suis à 2 km.
Ouais.
C'est pas très loin.
Et donc, tu te rationnais à combien d'eau ?
Quand je prépare sur une moyenne de 4 litres d'eau par jour, mais souvent au départ, je bois plus parce que le sac à dos est tellement lourd que ça me fait consommer plus. Ben, c'est comme si j'étais une voiture qui tirait un train derrière une locomotive et donc je consomme beaucoup plus et je peux monter à 6 litres d'eau sur la journée les premiers jours. Et à la fin, ça dépend, je peux parfois aller jusqu'à tenir avec 2 litres et demi d'eau par jour.
C'est pas grand-chose ça.
C'est vraiment pas grand-chose.
Et tu disais donc que tu la sales ton eau pour pouvoir la tenir
je
davantage.
Je mets du sel dedans parce que l'avantage du sel ou de l'eau salée, c'est que donc le corps devient, on va dire, salé aussi. Enfin, le corps, le sang, l'entièreté du corps devient trop salé. Et on garde l'humidité en nous. Et c'est un gros avantage, c'est que si on a de l'eau en nous, la machine fonctionne bien puisqu'elle a de l'eau, on évacue moins d'eau par transpiration. Le problème, c'est que si on ne transpire pas, on évacue moins de chaleur, puisque quand on évacue, c'est de la vapeur d'eau qui est plus chaude que le corps, puisque sinon, elle s'en irait pas vraiment. Et donc, on monte en chaleur, le corps monte en chaleur. Et là, problème si on est trop chaud. Et c'est ce que j'ai eu, je crois que c'était le troisième jour, dans la Vallée de la Mort, j'ai eu une surchauffe, et j'étais en train de tomber inconscient. Donc j'ai eu, comme on dit souvent, le voile noir devant les yeux, donc j'ai commencé à ne plus voir. Mais j'avais énormément de chance, c'est qu'il y avait une falaise avec un mètre d'ombre, et je me suis mis dans l'ombre, j'ai directement bu plus d'eau, j'ai mangé une barre céréale, une deuxième, j'ai dit je ne bouge plus jusqu'à ce que ça revienne. Et j'arrivais pas à me refroidir. J'ai commencé à en refroidir une bonne heure après le coucher du soleil. Donc le coucher du soleil, c'est-à-dire que tout est à l'ombre, mais l'air ambiant est encore chaud, et puis à un moment donné, il commence finalement à se refroidir pendant la nuit. Généralement, il fait quand même vachement frais aussi dans les déserts. Pendant la nuit, le lendemain, je dis là, j'abandonne, quoi. Et c'est en abandonnant, en disant je vais pointer vers la grosse dune là que je vois devant moi. Et derrière, il y avait une route qui traversait de manière horizontale le parc où il y avait une station-service. Et je sais, je m'arrête à la station-service et je ferai de l'autostop et je rentre. Et c'est en arrivant en haut de cette grosse dune, il y avait à gauche, je vois une mare et je sais que ce volume d'eau était de l'eau des inondations qui étaient en train de s'évaporer et qui, peut-être un jour après, il n'y en avait plus. Et j'ai été pêché de l'eau. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au bord de cette mare, l'eau était relativement verdâtre. Donc j'avais des pastilles pour purifier, je me dis on sait jamais que, donc j'avais pris des pastilles pour purifier, j'ai tout utilisé, et j'ai mélangé mon eau salée avec cette eau douce, et donc ça a divisé en gros la salinité en deux, et puis surtout j'ai pu en boire ce jour-là, j'ai bu 2-3 litres d'un coup, quoi, sur la demi-heure, j'ai bu énormément, ce qui m'a fait un bien fou, ça a rechargé mes batteries, ça a changé mon corps, la salinité, la fatigue qui était là, le moteur qui était grippé s'est dégrippé, puis je suis reparti.
Oui, surtout que point de vue salinité, tu n'avais pas hésité, là.
J'avais fait l'erreur à une expé avant en Bolivie, qui est les déserts de sel en Bolivie, les fameux salars, où là, j'avais pris du sel aussi, enfin, j'avais mis du sel, mais j'avais pas goûté. Vraiment, le con, quoi, là, on peut le dire. Le con, j'ai versé vraiment, je me vois encore le faire, je verse mon sel comme ça, venez encore un peu, ça va bon, il y a un gros volume, il y a 30 litres d'eau, on met presque un paquet de sel, un kilo de sel comme ça dedans. Je goûte. Mais même, c'était encore fortement élevé.
Oui, tu veux dire, c'était beaucoup plus loin que la salinité recommandée, ouais.
En Bolivie, je crois que là, j'étais à 3 fois la dose mortelle. Mais comme je mange jamais salé chez moi, donc le corps a tenu, mentalement, c'est très dur, quoi. On a envie d'autre chose. Hein.
T'as soif, mais au moment de boire, tu dis...
T'as même plus envie de le boire, soif, parce que c'est absolument infect, quoi. Et c'est ça qui vient, dit chouette, je garde mon eau, mais en même temps, c'est dangereux, donc...
Ouais.
Donc c'est vraiment pas évident.
Et donc, il faisait quelle température dans les Vallées de la Mort ? Alors, tu as aussi essayé de décaler un peu pour éviter les heures de midi pour marcher après ça ?
Oui, tout à fait. Les premiers jours, je m'arrêtais entre 11h30 et 1h30, 2h de l'après-midi. J'avais une...
Pas seulement, moi j'aurais cru que tu...
Non, que je continuais quand même à marcher, donc on va dire dans le soleil, quoi. Dans le soleil. Si on est bien protégé, ça va.
Tu faisais combien d'heures par jour comme ça ?
Alors, dans la Vallée de la Mort, c'est le... j'ai battu tous les records parce que, évidemment, comme mon eau est fortement limitée et qu'il fait très chaud, en même temps, il faut vite en sortir parce qu'on accumule la fatigue sur plusieurs jours. Le plus long que j'ai fait, c'est 19 jours de marche. Mm-hmm. 19 heures de marche.
19 heures de marche, oui.
19 heures de marche sur la journée.
Ça fait bien plus que 19 jours de marche. C'est pas
oui,
mal.
Ben ça fait que 5 heures de sommeil en considérant qu'il faut manger, se lever, replier la tente. Il n'y a pas beaucoup de sommeil.
Non, pas vraiment. Le désert de Simpson, donc ça c'était l'Australie, c'est celui...
Oui, c'était quelques mois plus tard, donc en août 2016.
5 semaines.
Je suis parti 5 semaines en Australie et j'ai mis combien de temps à faire la traversée?
35 jours, je crois.
Non, ça c'était en 2010, en 2008. Ça.
Oui, tu as été deux fois.
Là, j'avais... Donc, il faut savoir, le Simpson, je l'ai fait deux fois. Je l'ai
fait
en 2008.
C'est pas banal non plus.
Avec une charrette, le nord-sud. Donc, il a une forme, on va dire, d'œuf droit. Donc, il est plus long du nord au sud. Et là, j'ai fait la première mondiale de la traversée nord-sud en autonomie complète en tirant une charrette qui faisait 215 kilos au départ. Et j'ai mis 5 semaines. Et je m'étais dit, après, plus jamais. Mais quand on est con, c'est peut-être pas pour la vie non plus. Mais à un moment donné,
c'est pas fini,
le désert m'a fait tellement un effet que j'ai envie de retourner. Et j'ai encore envie d'y retourner aujourd'hui. Donc j'y retournerai un jour, faire quelque chose. Et j'ai voulu donc en 2016, dans la prolongation de ces 3 déserts où je faisais tout avec le sac à dos, faire le Simpson Est-Ouest qui est plus court en sac à dos. Normalement, c'est à peu près 400 km sur 2 étapes. Je n'ai fait que la partie dans le territoire du Nord, donc qui était quand même un peu plus de 300 km avec un sac à dos. Et au départ, quand même très lourd, puisque je suis parti avec 60 kg, il y avait 40 litres d'eau dedans. C'est le désert le plus aride d'Australie, et à un moment donné, il y a fait plus 45. Alors plus 45, c'est dur, mais plus 45 à marcher quand il n'y a pas d'ombre et avec un sac à dos bien lourd, mais on coule. Ce qu'on boit, on le vide, hein, on le vide complètement.
Ouais, t'as pas switché pour la nuit ou quoi, non? T'as continué?
J'essaye la nuit, mais bizarrement, j'aime quand même bien. Alors évidemment, il y a un moment donné où... Donc il y a eu 2 fois où je crois qu'on était passé les 40-45 degrés. Là, je me suis arrêté, clairement, parce que c'était intenable. Et j'essaye de faire la nuit. Mais voilà, la nuit, je sais pas pourquoi j'avais, peut-être avec l'expérience, j'avais un peu plus peur en même temps qu'avant. Surtout que il y a une nuit où j'étais en forme pour vraiment aller bien loin. Et une dune plus loin, il y avait un gros dromadaire qui était pas content. Il était tout seul et il gueulait tout seul. Donc je dis, je suis sûr, enfin, si je continue, je lui tombe dessus. On sera nez à nez avec lui. Et les dromadaires peuvent être vraiment très dangereux. Voilà, donc je peux embrayer sur mes rencontres avec les dromadaires dans le Simpson. Donc en 2008, où j'avais cette charrette, j'ai croisé des troupeaux de dromadaires à 6 ou 7 occasions. Généralement, aucun problème. Ce qui veut dire qu'il y a eu des moments où il y a eu des problèmes. Donc, à 2 occasions, il y a eu, on va dire, une confrontation. C'est-à-dire, la première fois, je descendais d'une dune. Et comme c'était la première fois, je ne savais pas qu'ils allaient être fâchés ou pas contents de me voir. Je descendais d'une dune sur un vieux lac à sec. Donc, il n'y avait pas de sel, mais c'était une croûte dure. Il n'y a plus d'eau. Et eux, c'était le matin, ils avaient sûrement dormi là, et ils se réveillent, entre guillemets, ils sont entre eux, ils papotent, hein, je suppose, je sais pas ce qu'ils se racontent, ils racontent le conte, comme on dit chez nous, et puis moi j'arrive vers eux, comme ils bougent pas, je dépose la charrette, je prends la caméra, je suis à côté de ma charrette et je les filme, voilà. Ils me repèrent, et entre nous, il y a 30 mètres, c'est une bonne distance, mais c'est quand même déjà assez proche, et tout d'un coup, ils commencent à s'agencer d'une certaine manière, mais ils s'agencent en fait en ligne, comme des centurions romains, quoi. Et puis à un moment donné, ils avancent, donc en gardant cette ligne, donc vraiment une stratégie de me chasser comme un râteau, quoi.
Ah, c'est marrant.
Ils font le râteau et ils viennent vers moi. Ah oui, j'oublie, avant d'entamer leur processus d'avancement, sur place, c'était de l'intimidation, c'est-à-dire que ils étaient en face de moi, ils me regardaient, et puis c'était... Et tous à 3 ou 4 à faire des bruits comme ça, tu dis, ok, il y a une horde de zombies déguisés en dromadaires devant moi, je vais peut-être ranger la caméra, ça va mal se passer. Et au moment où je commence à me barrer avec ma charrette, où en fait je tirais la charrette en les regardant, donc d'habitude la charrette est dans mon dos, mais elle était devant moi et je marchais en marche arrière, et là ils commencent à me suivre, et ça dure. Et ça dure 2-3 minutes. Alors 2-3 minutes, quand on a des animaux sauvages qui te poursuivent, c'est très long. et tu sais pas comment ça va se terminer. Donc je crie, je prends mes bâtons de marche, je les tape en l'air pour montrer que je suis plus grand, je vois un arbre un peu plus loin, je vais à côté, je tape dans les feuilles de l'arbre, enfin dans les branches pour montrer que je suis grand. Ça ne fait rien du tout, ils continuent. Et puis à un moment donné, ils décident d'arrêter, ils me remontent leur dos, enfin ils font demi-tour et ils se barrent en courant. Je sais pas pourquoi, et quand ils venaient vers moi, c'était en marchant. Enfin, en même temps, moi, j'allais pas très vite. Hein. S'ils couraient en 3 secondes, ils étaient à ma hauteur. Et ça fout les jetons. Ça fout vraiment les jetons.
En surtout courant, ils ont dû se dire, bon, il est potentiellement dangereux.
Mais il ne fait rien. Donc, je crois que l'objectif pour eux, c'était de me faire peur, de me chasser. Il y avait des plus jeunes parmi eux. Donc, est-ce qu'ils disent, je suis une menace pour les plus jeunes? Je sais pas. En tout cas, c'est clair qu'avec ma petite sarbacane fait maison et un couteau avec une lame de 10 cm, je vais pas pouvoir me défendre contre 10, 15, 20 dromadaires. Et quelques jours plus tard, entre guillemets, rebelote, à part que là, je les vois bien, je dis, cette fois, je me rapproche pas. Et ils étaient en train de passer une dune. Moi, je ne bouge pas, je me dis, ça va, ils vont pas me voir. Ils passent de l'autre côté. Et puis, bizarrement, les 2-3 derniers, je sais pas pourquoi, ils me repèrent. Et je sais pas ce qu'ils se sont dit. Et les autres qui étaient dans l'autre vallée derrière, ils reviennent, ils remontent la pente, ils reviennent et ils se mettent tous sur la dune, ils me voient. Et puis, tout d'un coup, ils partent en courant vers moi. Et là, donc, ils ont pas fait les bruits. Enfin, de toute façon, ils étaient loin, ils ont pas fait de bruit de zombies ou je sais pas quoi. Ils sont arrivés en courant. Alors, c'était magnifique parce que, entre le moment où ils se sont mis à courir jusqu'au moment où ils se sont arrêtés à 10-12 mètres de moi, il y avait vraiment le sable rouge qui virevoltait avec leurs pattes. C'était beau à voir, quoi. C'était vraiment des animaux comme ces beaux animaux. Et j'ai pu les compter avant, ils étaient 14. Donc c'est 14 dromadaires qui viennent à côté de moi. Puis ils m'ont regardé, j'ai reculé aussi. Mais là, j'étais pas sur un lac dur, mais plutôt un espèce de l'équivalent d'un champ de patates. Donc c'était très très dur de m'extirper de cet endroit. Mais ils se sont pas rapprochés. Ils m'ont regardé pendant quelques minutes, se sont retournés et ils sont partis pas en courant, en marchant tranquillement. Dans l'autre dune. Alors, ils étaient partis plutôt côté droit, ils sont partis côté gauche, j'ai pas compris pourquoi. C'est bon. C'est de la chance parce qu'il y a eu des altercations où Robin Davidson, pour ceux qui ont vu peut-être le film Trax, à un moment donné, elle prend la carabine, elle tue un dromadaire. Elle se baladait aussi 4 dromadaires, je crois. Et voilà, un dromadaire sauvage qui arrive et elle le tue parce qu'il était violent, quoi. Il cherchait vraiment à lui faire du mal, quoi.
Oui.
Donc voilà,
c'est marrant parce qu'on pense, il y a tellement de bêtes qui piquent, qui mordent en Australie.
Le dromadaire.
On pense aux araignées, aux serpents, au bazar, mais le dromadaire, a priori,
c'est pas le premier exactement auquel on pense. Voilà. Et donc, en 2016, là, je n'avais pas la charrette, entre guillemets, ni j'avais aucun moyen de défense, mais vraiment rien, à part mes bâtons de marche. Et s'il veut me donner un coup et qu'il pète mon réservoir d'eau, j'en avais 2, mais bon, il pète et je perds 20 litres, c'est fini, quoi. Je me suis dit, je vais pas aller ennuyer ce dromadaire bourré qui est à 300 mètres de moi. Je vais le laisser, je vais planter la tente. Il était peut-être 10 heures du soir. J'aurais bien voulu continuer jusqu'à épuisement. Et je me suis dit, je vais me lever un peu plus tôt que d'habitude. Voilà.
Attention aux dromadaires.
Attention aux dromadaires. C'est... Méfiez-vous des dromadaires.
Ouais, ça c'est vraiment surprenant.
Un dromadaire peut cacher un homme bourré et violent.
Alors, exact, le Simpson, on va peut-être le situer un petit peu. Il est où exactement et qu'est-ce qu'il a de spécial?
Alors, il est au centre... est de l'Australie. Il fait 6 fois la Belgique en superficie. Il y a 0 habitant. Donc, 6 fois Belgique, la Belgique, c'est un petit pays, mais 6 fois Belgique, ça commence à compter. Et voilà, c'est d'une parallèle orientée sud-sud-est. Et il y en a 1100 pour la plus grande partie de la largeur du Simpson. Et pour moi, il est magnifique. Et il y a énormément d'endroits où l'homme n'a pas mis les pieds, même pas les aborigènes. Donc les aborigènes l'ont quitté je sais plus si c'est 1903, 1906, ont rebouché les puits.
Ils l'ont quitté donc parce que c'était trop dur de vivre là-bas, c'est ça?
Je suppose que c'était trop dur. Ah, ils ont commencé un peu à s'émanciper, enfin en tout cas, à rencontrer l'homme blanc et ce qu'il a apporté, parce que c'est vrai qu'on a apporté des nouvelles technologie et je suppose que c'était la vie dans le Simpson était trop dure. Alors je suis pas un expert de la chasse ou de la cueillette, vraiment pas, mais il n'y a pas grand chose à manger dans le Simpson, quoi. C'était pas connu que le Simpson était fortement habité. Oui, mais les dromadaires, ils ont été amenés par l'homme pour qu'on d'Afghanistan, donc c'est d'origine afghane, pour la construction du rail, et puis évidemment parce que le cheval n'est pas à la chaleur. Et puis quand la voiture est arrivée et les camions, il n'y avait plus besoin des dromadaires. Je ne sais pas combien on avait, on va les laisser là. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y en a plus de 2 millions apparemment.
Ah.
Donc ils pullulent et ils mangent, malheureusement, ils mangent la végétation. Donc ils contribuent à la désertification. Et c'est pour ça que, tant pis pour ceux qui aiment les animaux, mais aujourd'hui, c'est utile de les abattre. Et c'est pour ça qu'on a des camel pie, enfin des muffins, enfin des steaks, enfin bref, on peut manger du dromadaire à plusieurs endroits en Australie. C'est comme ça, comme le lapin qu'on a amené. Donc malheureusement, l'homme blanc a amené énormément d'espèces invasives.
Ils font des gros déséquilibres.
Certains cochons.
La Nouvelle-Zélande se bat pour justement éviter tout ce qui est mammifère. Oui. On va en revenir à tes déserts. Donc, tu es le seul à avoir fait le Simpson, avoir été au centre deux fois, c'est ça ?
À pied, oui, à l'atteindre. Donc, faut savoir qu'au centre, ils ont été mettre un poteau avec un logbook, enfin un livre d'or. Et généralement, on voit ceux qui viennent et qui mettent leur plaque d'immatriculation de voiture dedans. Et puis,
toi, t'as mis ta pointure.
Et moi, je mets mon site web, je dis, je suis belge et je suis venu à pied. Et puis, la deuxième fois que je l'atteins. Et puis, j'ai été voir le logbook de 8 ans avant, entre 2008 et 2016, qui était toujours là. Et tiens. D'ailleurs, j'ai eu très, très peur en prenant le logbook la deuxième fois, puisque c'est une jerrycan qui est ouverte sur le bas, donc pour éviter la pluie, on rentre le logbook par une fente qu'il y a dessous. Et en mettant ma main, il y a un truc qui tombe à terre, et un truc gluant avec une longue queue, etc. Et il faut savoir que dans le désert Simpson, il y a le serpent le plus venimeux au monde.
Ah.
Bon, entre le plus venimeux, le numéro 10 ou le numéro 20, je pense que le résultat est même, on s'en sort pas ou pas bien. Et surtout que les anti-vaccins, enfin les anti, non, pas non, autre chose, ça c'est
anti-venom.
Ça c'est autre chose aujourd'hui.
On est un peu branché
vaccin. On est un peu trop. Il est en consort de cette pandémie. Et donc l'anti-venin doit être refroidi. Et c'est clair qu'en marchant dans le Simpson tout seul avec sac à dos, c'est pas possible. Et en fait, c'était deux petits geckos, mais ça m'a foutu le cœur. Il est monté en flèche sur ce coup-là parce que c'est un serpent. Et c'était deux petits geckos tout sympas qui bougeaient pas, qui étaient tout mignons, un couple, je suppose. Qui était dans la jerrycan, qui a trouvé ça un chouette endroit.
Ils sont pas dérangés tous les jours.
Ah non, ils sont pas dérangés tous les jours, ça c'est certain.
Il n'y a pas d'autres animaux là-bas que tu voyais de temps en temps, qui étaient des petites rencontres sympas?
Alors il y a eu des émeux, donc l'équivalent de l'autruche. Donc l'autruche est en Afrique du Sud, l'émeu est en Australie. Donc c'est un peu plus petite qu'une autruche, mais c'est une petite autruche, quoi. Et là, il y a eu à un moment donné quelques troupeaux qui sont venus vers moi parce que ils avaient, à mon avis, pas encore vu d'hommes. Et donc, elles étaient curieuses, surtout quand je m'arrêtais. Donc je m'arrête, je les observe pour mon appareil photo et j'attends. Et au départ, elles me fuient. Et après, je dis, c'est quoi ce truc? Et surtout que j'ai deux pattes comme elles, quoi. Bon, j'ai pas le beau plumage, mais quand même, beau sac à dos rouge. Et elle venait vers moi et elle tourne autour de moi. Et puis dès que je rebouge un peu, elle se barre un peu. J'essaie quand même de bouger quand elle se rapprochait trop parce que bon, elles sont à peu près ma hauteur, elles ont un bec, elles ont quand même des griffes au niveau des pattes. Faudrait pas que tout d'un coup elles se disent qu'elles ont peur et donc elles m'attaquent parce que voilà, il y a deux choses face au danger. Soit on se barre, soit on attaque. Hein. C'est un peu les deux. Ouais. Et un animal sauvage, on sait pas ce qu'il va faire.
Ouais. Et donc, on peut parler de ton troisième désert, alors ?
Donc, il y a les déserts de sel en Bolivie. Il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est le Salar do Uyuni, qui est la plus grande surface de sel au monde, qui est d'ailleurs tellement plane que les satellites l'utilisent pour se calibrer, entre autres. Et j'avais remarqué qu'au nord-ouest du Salar do Uyuni, il y avait le Salar de Coipasa. Et que, en fonction des ans, il y a eu le lac Toco et le lac Minchin qui étaient plus grands. Je crois que le lac Minchin, c'était 40 000 ans, mais le Toco, il y a 10 000 ans. Et dans le Toco, qui est un lac complètement asséché, il y avait les deux salars. Il englobait même le lac Titicaca.
Ouais, ça peut être énorme.
Donc, sur 10 000 ans, à l'échelle de l'humanité, même 10 000 ans, c'est pas encore très grand. Enfin, c'est énorme, 10 000 ans. Mais donc, deux surfaces salées qui viennent du même lac quand il y avait de l'eau. Pourquoi elles ne sont pas reliées? Parce que dans le lac, il y avait un monticule, on va dire, qui fait 100 mètres de haut, qui est donc une colline longitudinale et qui sépare ces deux croûtes de sel. Et pour moi, il y avait une certaine pertinence ou logique de tenter de les traverser les deux ensemble puisqu'ils viennent du même lac.
Et du coup, ça t'a pris combien de temps de faire
ça m'a pris... Alors, j'avais fait une tentative en 2013 que j'ai échoué. Et celle de 2016, j'avais mis 7 jours.
7 jours.
Et à la première tentative, j'ai visé 8. Donc j'étais parti plus lourd, puisque j'ai plus d'eau, avec trop de sel. Hein. Ça, c'est vraiment l'endroit où j'ai pris vraiment trop de sel.
C'est l'expérience salée totale, quoi, des lacs salés et boire du sel.
Voilà. Et j'avais, je pense qu'entre les deux expéditions, entre l'échec et la réussite, je crois que j'avais 10 kilos en moins de différence, parce que j'ai tout amélioré. J'avais pris des bottes, parce que parfois, il y avait un petit peu d'eau, et que si la basket prend l'eau et le sel, et que tout d'un coup, l'eau s'évapore, la basket est en prise de sel et ça devient une croûte dure, quoi. On ne sait plus marcher avec, quoi.
Ouais.
Et donc, j'ai des bottes. Là, en fait, là, j'ai remplacé des bottes qui pesaient 2 kilos par un bête sac plastique qui pèse 1 gramme ou 2 grammes. Ouais. Donc, j'ai tout amélioré. J'avais un réchaud la première fois. Je suis parti sans réchaud. Le game était changé et voilà. Et donc, j'ai gagné en temps. Et c'est la seule XP où j'avais, enfin, une des seules XP où j'avais aucun moyen de déstress, de signalisation, rien. S'il m'arrive un truc, c'est fini.
Fouté. Sinon, tu as toujours un...
J'essaie toujours d'avoir au minimum une balise de détresse. Couplé maintenant à un GPS de tracking qui permet aussi d'avoir d'appeler à l'aide et qui permet d'avoir de faire des messages soit de type SMS soit email mais maximum 160 caractères, enfin l'équivalent d'un tweet entre guillemets ou d'un SMS qui est suffisant pour raconter un petit peu ce qu'on a fait sur la journée et surtout le tracking qui permet de me suivre à un point qui vient se mettre automatiquement sur une carte par internet, enfin via le réseau satellite Iridium. Je crois que c'est toutes les 20 minutes dans mon cas. Comme ça, si on doit me chercher, on sait que je suis pas loin du dernier point.
Qui reçoit alors les signaux tracking?
Ça arrive automatiquement, donc ma page est publique, et donc quand je lance sur les 3 dernières XP, il y a un petit point bleu qui se déplace automatiquement sur une carte et les gens peuvent dire « Ah, là il s'est arrêté » ou où il a un problème, où là il est près d'une rivière et il a arrêté, ben c'est qu'il fait une pause et il prend de l'eau, par exemple, ce genre de choses.
Ah ouais. Ça peut être sympa de te suivre. Tes ennemis là-bas au désert de Uyuni, c'était le froid, le vent et l'altitude.
Oui, chacun d'entre eux, en fait, est abordable, enfin tout est abordable, mais c'est clair qu'il y a parfois des effets météo ou de conditions qui fait que quand on a plusieurs éléments néfastes à la progression qui sont ensemble, ça devient difficile. Donc l'altitude fait que déjà, on a moins d'oxygène, et donc quand on a un sac à dos et qu'on veut marcher toute la journée, même en étant un peu entraîné, ça reste une difficulté. Il y a moins d'oxygène, point, donc on est plus vite fatigué. Le vent, il peut être intense. À la première tentative, d'ailleurs en 2013, j'avais une protection de mon réchaud. Il faisait noir, donc il y a eu un coup de vent et il est parti avec le vent. Donc tout d'un coup, il y a un truc qui disparaît dans le vent. Il fait noir, il n'y a pas de lumière. On va jamais le retrouver. Donc il est clair que sur le Sahara de Uyuni, quand il y a un peu de vent et qu'on plante sa tente, on met sa tente au sol, on met le sac à dos dans la tente et puis on monte sa tente. Comme ça, s'il y a un gros coup de vent, la tente ne pourra pas s'en aller puisque il y a une vingtaine de kilos à l'intérieur, quoi. Donc, ce genre de choses-là. Donc, le vent peut être dangereux. Et puis, le vent, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, le vent, il est toujours de face et jamais de dos. Donc, c'est un peu plus dur. Et puis, la réverbération, la croûte de sel, c'est blanc. Donc, il y a ce que j'appelle le double soleil, la double peine. C'est qu'il y a, quand il y a plein soleil à midi ou un peu incliné à 2-3 heures de l'après-midi, lorsque la température de l'air a monté, il y a en plus le soleil soit de dos, soit en pleine face. Il ne faut rien laisser passer comme peau, quoi. Ça brûle vraiment la peau, quoi. Donc, le visage, il est complètement recouvert, les jambes, les bras, tout. Il n'y a que mes mains. Si j'ai le courage et qu'il fait froid un peu le matin, je mets limite des gants, mais sinon je mets un peu de crème solaire et ça passe.
Mais tu disais qu'aussi, même respirer, ça peut...
Et voilà, et donc il y a l'air salin, également, donc l'effet altitude, etc., il y a l'air salin, et donc ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir un petit saignement au nez, donc pas très grave, mais je me souviens de documentaire, je crois qu'il est encore, enfin un bout de documentaire est trouvable sur YouTube, deux Allemands qui avaient fait, mais eux n'avaient fait entre guillemets que le désert de sel du nom de Uyuni qui est plus petit, et eux littéralement crachaient du sang, c'est-à-dire qu'ils respiraient tellement fort ou pas entraîné à l'altitude, peut-être, ou en poussant trop, parce qu'il faut aller entre guillemets à son rythme, mais il faut pas pousser comme un fou. Vaut mieux faire 50 km en 16 heures qu'essayer de faire 50 km, allez, on dit 5 à l'heure, à 10 heures, on a fait 50, en 10 heures, et on a tellement poussé qu'on a érodé les bronches et les alvéoles, parce qu'on a respiré un air salin, et puis tout d'un coup, on crache du sang qui vient des poumons, et on sait pas voir ce qu'on sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc est-ce que c'est grave, est-ce que ça s'arrête là, est-ce que c'est un caillou, on ne sait pas. Donc c'est pas une bonne chose, donc faire des efforts là-dessus. On mettra pas un basic fit en plein milieu du Sahara de Uyuni pour faire du sport, je pense qu'il y aurait des morts,
Donc tu as fait aussi le tour du lac Titicaca, c'était aussi une première mondiale parce que c'était en kayak.
Oui.
Du coup, tu l'appelais le...
Titi Kayak, voilà. Jeu de mots belge facile. En Belgique, en Germain, on ne les fait pas compliqués, nos jeux de mots. Il y a pire comme jeu de mots, on va dire aussi. Et donc, à deux, avec un Péruvien qui s'appelle Gadiel Sanchez Rivera, qui lui avait d'ailleurs fait avec Ed Stafford, qui est un Anglais, ils avaient descendu le fleuve Amazon à pied.
À pied.
En 2 ans et demi.
Ouh, ah oui.
Enfin, l'anglais était parti et lui, il avait rejoint Gadiel pour à peu près un an et demi ou 2 ans ensemble. Un truc comme ça.
Ah oui.
Et spécialiste de la jungle, donc il sait comment trouver de la boue, de la nourriture, ouais. L'eau. Et je m'étais dit que le gars qui fait 2 ans dans la jungle et qui s'y connaît, je pense que faire le tour du lac Titicaca, ça devrait aller mentalement et devrait tenir. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de partir en expédition avec moi et faire le tour du lac Titicaca? Il m'a dit, oui, bien sûr, c'est quoi un kayak? Donc je l'ai formé au kayak en 48 heures. J'ai dit, ça c'est un kayak, c'est comme ça. Il y avait quand même vu, mais il savait pas trop comment ça s'appelait. Et donc, le Titicaca, ouais, c'est à peu près 1100 km de côte.
Pas mal,
et
ça.
On a fait ça en 38 jours. C'était ma plus belle expédition. Vraiment, oui. Parce que on était deux. C'était une expédition où on allait aussi vers les gens. Donc, il n'y avait pas d'autonomie complète.
Pas besoin.
Donc, on achetait de la nourriture quand il fallait qu'on allait vers un village. Et à un moment donné, un pêcheur qui revenait nous a vendu son poisson, enfin, sur l'eau, quoi. Enfin, le marché sous l'eau, c'est génial. On arrive avec le kayak, on voit des gars, il veut absolument nous vendre un poisson. Et nous, on dit, mais on veut absolument t'acheter ton poisson, puisqu'on veut filmer ça, parce que voilà, c'est unique, on n'avait jamais fait ça. Lui, il faut savoir, Gadiel avait pagayé, évidemment, en canoë, enfin, en tronc d'arbre, en dugout en anglais, hein, les troncs d'arbre qu'on évide.
Oui, oui.
Il avait déjà fait des canoës, donc du canoë, oui. Mais du kayak, c'est quand même encore moins stable sur l'eau. Mais bon, enfin, il a appris et c'est pas très compliqué, mais il faut s'appliquer. Donc voilà, il y a eu des moments, à un moment donné, je me souviens, où on s'est perdu dans la totora, donc ces espèces de roseaux du lac Titicaca. Mais bon, ces roseaux sont plus hauts que nous, hein, à peu près une trentaine de centimètres au-dessus de notre tête. Donc on se retrouve dans des...
Oui, je voyais, c'est vraiment,
vrai,
ça recouvrait une énorme surface.
Une surface gigantesque.
Et une fois que vous êtes dans le kayak, vous ne voyez plus rien.
On
ne
sait pas où on est.
Dans une forêt.
On prend le GPS, on dit, bah oui, c'est par là qu'on doit aller, mais on se retrouve devant un mur, on essaie de trouver par où il faut sortir. Et un matin, on traverse la totora pour aller camper, on dormait toujours sur la côte du lac, évidemment, tous les soirs, mais à un moment donné, le matin, on veut repartir, on ne sait plus par où on est venu, parce qu'il était nuit, et on n'arrive pas à en sortir. Enfin, à un moment donné, on passe à travers, quoi. On passe à travers les plantes et on arrive à passer. Donc, il y a eu vraiment une variété de difficultés et de plaisirs aussi, parce qu'avec les gens, on arrivait en Bolivie, on a deux petits vieux qui nous regardent, qui se foutent de notre gueule parce qu'on est dans un bateau en plastique, et ils disent qu'on va tomber dans l'eau, qu'on va mourir, et qu'ils ont en même temps peur, mais en même temps, ils se foutent de nous parce qu'ils vont pas aller bien loin dans leur truc en plastique. Il faut savoir qu'eux, ils sont dans des barques à rames, donc une barque, 3 mètres de long, 1 mètre et demi de large, mais eux, lorsqu'il y a une grosse vague, la barque se renverse et c'est pas facile de la remettre droite. Tandis que le kayak, qui a une technique pour se remettre droit, donc on va plus vite tomber à l'eau, mais on va plus vite en sortir. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de combinaison étanche, donc on voulait pas, et c'est pas arrivé, on voulait pas tomber à l'eau parce que c'était en hiver, qu'on est quasi à 4000 mètres d'altitude et qu'il fait froid, et voilà, tomber dans une eau très froide comme ça, c'est l'hypothermie après quelques minutes. Donc si on était tombé à l'eau, on n'a pas beaucoup de temps pour en sortir.
Du coup, pourquoi avoir choisi l'hiver plutôt que l'été?
Très bonne question. Merci d'avoir posé.
Je t'en prie.
Mais je vais y répondre. La plus bête réponse, c'est tout simplement d'un point de vue planning, c'est on était là tous les deux disponibles à ce moment-là, mais il y avait un gros avantage, c'est qu'en hiver, il fait plus froid. Ça paraît un peu logique. Comme il fait plus froid, il y a moins de soleil, aussi les journées sont plus courtes, et il y a moins d'évaporation. Comme il y a moins d'évaporation, il y a moins de risques de tempête et de grosses pluies. Et donc, s'il fait en journée 0 ou 2-3 degrés de froid et qu'il fait sec et qu'on a un beau soleil parce qu'il n'y a pas de nuages, finalement, on a beaucoup plus chaud parfois qu'en été où il y aurait plein de nuages et on se prend la drache nationale tous les soirs, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est un gros avantage. On n'a eu que quelques pluies. Alors, on a eu vraiment après aussi des gros orages, éclairs, grêle. On a tout eu, quoi. Mais principalement du beau temps.
Ok, j'ai une question de mon autre petite fille, Amandine.
J'aime les questions de tes filles.
Est-ce que c'était très fatigant de faire du kayak là-bas?
Avec l'altitude, avec...
Oui, en effet, donc la question pourrait paraître anodine, parce que on se fatigue si on pagaie fort, si on pagaie lentement, on se fatigue pas trop, mais c'est clair qu'on est vite fatigué. On était vraiment, moi qui ai fait du kayak à d'autres occasions, à d'autres expéditions, on était relativement fatigués. Et ça se voyait tout simplement à la vitesse de progression. On est simplement, entre guillemets, sur un lac. Il n'y a pas toujours du vent. On était relativement lent, quoi. Mettre 38 jours pour faire 1100 km de côte, grosso modo, c'est lent. Mm-hmm. Bon, on était aussi très très lent parce qu'il y avait le projet scientifique qui était de créer l'équivalent d'un street view du lac Titicaca, c'est-à-dire qu'on prenait des photos de la côte géolocalisées. On prenait la photo dans l'eau, mais après on allait à la côte prendre le point GPS pour vraiment géolocaliser la frontière entre l'eau et la terre et la photo qui correspond. Le projet n'est pas très connu. Par contre, j'ai eu la chance de plonger avec l'armée bolivienne dans le lac. On n'a pas été profond, à peu près 8 mètres le plus profond. Et je voulais voir la grenouille la plus grosse au monde, qui est d'eau douce. Alors, je ne connais pas le nom latin, Telmobius, je ne sais plus quoi. Enfin bon, c'est un nom. Bref, la grenouille du lac Titicaca.
La grosse grenouille.
Grenouille. Ah oui, si on aime les cuisses de grenouille, je ne vais pas dire que c'est à la taille du poulet, mais pas loin.
Ok.
Mais bon, elles sont en danger, donc on va ne pas manger la grenouille du lac Titicaca. J'ai pu en voir quelques-unes, donc très bel animal. On peut pas le louper, hein, c'est gros.
C'est gros comment ?
Avec les pattes allongées, je dirais que de patte à patte, quand elles ont les deux pattes avant devant et les deux pattes allongées étendues quand elles nagent, on arrive quasi à la longueur d'un chat, quoi, peut-être 30-40 cm de long. Et c'est en volume de corps, c'est la tête d'un labrador peut-être.
Ok. Ah oui,
C'est déjà une belle bête. Ouais.
Ouais. Et donc là, tu regardais le fond avec une GoPro, voilà. C'est ça ?
Je prenais une GoPro, on prenait des photos du fond, ce qui permet à un scientifique belgo-bolivien, parce qu'il ne connaît pas tout le tour du lac, enfin quand même 1100 km, de pouvoir dire, c'est là que je dois aller plonger, faire des analyses. Et donc, il veut les analyser, mesurer, parce que voilà, elles grandissent, elles sont de plus en plus petites parce que la pollution est là.
Ah, c'est à cause de la pollution qu'elle...
Principalement, bref. Ah, ouais. L'homme est souvent responsable, de manière directe ou indirecte, aujourd'hui des problèmes sur les animaux. Et ça, j'ai pu faire cette plongée via des contacts, quoi. Bizarrement, un contact, puis un coup, ça t'intéresse de plonger dans la petite écart ? Mais que oui, quoi. Presque un des derniers étrangers qui avait pu le faire, c'était presque Cousteau, ou des scientifiques. Il n'y a pas de club de plongée, donc je suis quelque part peut-être le premier touriste. Parce que les autres le font, Cousteau c'était pour les films et scientifiques, il y a des scientifiques belges, archéologues qui vont plonger là, qui ramènent, qui font des fouilles subaquatiques, mais moi c'était entre guillemets pur plaisir, je plonge 30 minutes pour aller voir la grenouille quoi.
Et alors maintenant on va venir à je crois que ça a été ton expédition la plus dure, la Tasmanie.
Eh ouais,
C'était 52 jours, première mondiale aussi, traversée du nord au sud en hiver, sans assistance, 550 km.
Ouais.
Ça, c'est pour les chiffres, mais alors le vécu, tout à fait autre chose. Ouais.
En fait, il y a la Tasmanie, c'est... les Anglais diraient « I have a love and hate relationship with Tasmania ». Donc, d'un côté, on l'adore, et d'un côté, on la haït. Mais la haïr, c'est parce qu'on a choisi d'y aller d'une certaine manière qui n'est pas conventionnelle.
Oui, tu es resté toujours en dehors des pistes et toujours sous tente.
Oui, donc il faut savoir que la Tasmanie, c'est à peu près deux fois la Belgique. Il y a très peu d'habitants. Et il y a une zone qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO qui fait à peu près la taille de la Wallonie. Donc il faut s'imaginer qu'il y a la Wallonie, habitants zéro. Enfin, il y a quelques ranchs pour rangers et des cabanes pour faire du camping, enfin du camping de trek lors de randonnées officielles. Et j'avais fait une randonnée à cheval sur 2006-2007, qui était ma troisième expédition là-bas. J'avais perdu énormément de poids et je m'étais dit, c'est génial. Et j'avais fait énormément de sommets. J'avais fait 19 sommets. Non, c'était génial. Je veux dire, la Tasmanie, j'ai pas bien terminé ma phrase. Donc, la Tasmanie, c'est absolument magnifique. Après, je devrais presque pas en parler. Je devrais pas donner envie aux gens d'aller. Sinon, on va avoir... Il n'y a pas encore beaucoup d'Instagrammeurs là-bas, on va dire ça comme ça, et de bus, de touristes qui y vont. Généralement, quand on va en Australie, ce n'est pas le premier endroit auquel on va, ce n'est pas en Tasmanie.
Non.
Mais voilà, c'est magnifique. Et donc, on m'avait dit à un moment donné, ouais, là, tu dois revenir un jour en Tasmanie en hiver. Il fait déjà froid, il y a déjà de la neige en été, alors en hiver, avec les vents d'Antarctique qui viennent parfois, donc des vents qui peuvent descendre à moins 15, moins 20. Ce qui m'avait dit surtout, non mais... C'est beau, parce que t'as vu les montagnes, j'ai vu. Alors imagine, là, recouvert un peu de blanc et la neige, c'est magnifique. Et s'il y a assez neige, tu peux même faire du ski, quoi. Et puis je dis, mais attends, c'est la partie off-track, quand tu... parce que je reliais à cette première expédition, j'avais relié des randos officiels par de l'off-track, donc à travers tout. Et là, la rapidité de protection, enfin, on divise par 4 ou par 5 la vitesse. On passe de, on va dire, du 2-3 km/h sur rando à du 2-3 km/h parfois par jour en off-track. Bah, mon record de lenteur en été, c'était 300 mètres en 6 heures. Donc c'est la jungle. Et la machette est interdite, patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut pas abîmer les arbres. Mmh. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre ses mains dedans et comme une pince, c'est les écarter. Donc écarter les arbres et les plantes. Ah, attention, que l'auditeur ne se rend pas compte, je ne suis pas Hulk. Hein. J'écarte pas l'équivalent d'un chêne ou un truc comme ça. Donc c'est des arbres fins, des lianes, des plantes, végétation. Et le pire en Tasmanie, c'est la météo qui peut être vraiment méchante, comme partout. C'est une île, donc déjà les vents peuvent venir d'un peu partout et des vents très froids. Mais c'est surtout les plantes. Il y a énormément de plantes qui te déchirent ton matériel, il y en a qui coupent, mais tu te tiens la main à une plante et t'es en train de perdre l'équilibre. Et si ta main glisse dans la plante, mais ça t'ouvre la main.
Donc, la végétation. Un sentiment de profonde connivence avec la végétation, oui. Si je comprends
donc
bien.
La végétation est, comment dirais-je, elle est belle, hostile. Mais elle est pas sympa. Elle est vraiment pas là pour que tu progresses, quoi. Elle est vraiment là pour te freiner. C'est pas se dire, tu peux, hein, mais tu vas en chier. C'est d'ailleurs de là aussi que venait le Crazy Belgian en 2006-2007. Surtout que j'avais dit, après le Simpson en 2008, un jour, je pense que je suis revenu en Australie faire la Tasmanie en hiver. Mais entre 2008 et 2018, il y a eu 10 ans. Donc, il a fallu 10 ans mentalement pour se dire, je suis prêt maintenant, la Tasmanie en hiver, ça va pas être du gâteau. Plaisir, il y en aura, mais alors pas beaucoup. Mais je veux dire, le plaisir, c'est 1% du temps. Hein. Il y a des beaux paysages, mais c'est... On a froid, on a faim, enfin, c'est vraiment... C'est une punition choisie, quoi.
Et pourquoi on le fait, alors ?
Pour se dépasser, pour avancer, pour apprendre, pour voir même ces très beaux paysages en hiver qui sont, bah, quelque part, qui se méritent à coup de sueur et de marcher dans une mélasse, dans la boue, dans l'eau, etc. Parti avec 62 kilos sur le dos, je suis ressorti de là avec à peu près 25 kilos sur le dos et j'ai perdu 16 kilos. En 52 jours, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup.
Tu avais quoi ? Tu t'étais trop rationné ? Tu avais trop... Ben,
j'avais prévu 40 jours et comme toujours à Tasmanie, comme déjà la plupart des expéditions, je suis toujours un petit peu plus long que ce que j'ai prévu. Mais là, tu te rationnes, mais en plus, c'est en hiver. C'est qu'à partir du moment où tu commences à perdre, tu fonds. Et puis, les derniers jours, enfin mes repas, enfin les 4 derniers jours, j'ai une vidéo de ça, je fais des petits sacs plastiques avec des noix, des mélanges de noix. J'ai 100 grammes, et puis une tablette de chocolat qui me restait d'à peu près 100 grammes. Donc, j'ai 500 grammes de bouffe. Pour 4 jours.
Où tu fais des efforts intenses.
Et je fais des efforts intenses. Enfin, à ce moment-là, les journées étaient quand même un peu plus courtes parce que j'étais tellement fatigué. Et on ne met plus de fuel dans la bagnole, hein, entre guillemets. Mmh. Et voilà, on fond, on perd, on délire pas encore, mais... Et puis on pleure. Qu'est-ce que j'ai pleuré à cette expédition? D'ailleurs, la première fois où j'ai pleuré, c'était à peu près au premier tiers. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de frites. Je sais pas pourquoi, c'est juste des saugrenus. Enfin, après, je suis pas colombien, hein. J'aurais pensé à autre chose si j'étais colombien, mais tout d'un coup, j'ai envie de frites et je suis à pleurer parce qu'il y avait pas de frites. Et je pleure comme un con, j'en rigole en même temps, mais je pleure, j'ai le blues, j'ai envie de frites. C'est-à-dire le truc bien gras, chaud.
Oui,
il y a du goût. Enfin, les frites, quoi. On sait pourquoi c'est bon, il faut pas l'expliquer.
Genre c'est très truc. Belge comme réflexe.
C'est vraiment un réflexe. Et puis vers la fin, le dernier jour, le matin, une branche me fait un croche-patte et je tombe et je râle comme un con. Et je râle sur cette branche qui déjà est inanimée, ne me comprend pas. Je suis déjà tombé des dizaines et des dizaines de fois. Il faut savoir que j'avais pété mes deux bâtons de marche. Donc quand t'es fatigué, ça t'as plus tes bâtons. Quand tu perds l'équilibre, bah, tu tombes, quoi. Mmh. Et tomber, c'est-à-dire, t'as mal, et puis il faut se relever avec le sac à dos qui est lourd. Alors oui, à la fin, il fait plus que 25 kilos. Mais 25 kilos, c'est un poids déjà au-dessus de la moyenne des poids de sac à dos. Et je suis extrêmement faible, donc ça reste tout aussi dur.
Ouais.
Et puis bah on se rapprochait du printemps puisque c'est vraiment la fin de l'hiver et voilà et c'est il y a plus de neige mais c'est la boue, ça glisse et puis alors c'est les grosses pluies et puis on est dehors, c'est toutes les soirées sous-tentes, quoi.
Oui, mais justement, là, c'est tu aimes bien allier un projet scientifique à tes expés. Là, l'objet d'observation, c'était toi-même. Tu as travaillé avec une psychologue, c'est
oui,
ça?
Oui, donc le programme s'appelle « Prise de décision sous stress en environnement extrême ». Ta-ta-ta, ça fait beau hein, dans le décor, ça.
À fond.
Et donc, c'est une psychologue scientifique. Elle est basée à Paris, à l'Université Paris 2, et elle étudie les explorateurs en solo. Et j'ai fait les tests complets avec elle, donc il ne manque aucune donnée, dans le Simpson en 2008, en Islande en 2010, et en Tasmanie en hiver en 2016.
Elle te faisait faire des tests pour voir si tu savais encore dire, j'ai vu un petit documentaire, l'alphabet à l'envers,
voilà.
Ou plein de choses, pour voir les tests de réflexion, comment...
Oui. Donc ce sont des tests cognitifs, c'est la manière dont on réfléchit et on pense, donc elle mesure plusieurs paramètres. La locution verbale, est-ce que fouiller comme ça parce que je suis tellement fatigué que je ne sais plus me concentrer. Il y a des tests un peu mathématiques et il y a ce fameux test qui est un test tueur où je mets un petit écouteur sur les oreilles avec un petit bruit qui fait tic, tic, tic. Et à chaque tic, je dois donner, je sais plus, c'est une ou deux lettres de l'alphabet, mais l'idée, c'est que j'ai un flux et que les lettres de l'alphabet doivent venir. Je dois dire 100 lettres de l'alphabet sur 50 secondes, donc c'est 2 à la seconde, de la manière la plus aléatoire possible. Donc si je dis A, B, C, c'est pas bon. Z, X, Y à l'envers, c'est pas bon non plus. Donc ça doit être A, Q, G, P, V, enfin, ce genre de choses. Lorsque dans les lettres, on dit glu, gling, gling, on se dit qu'il y a un problème, quoi. Et,
oui.
puis on se rend compte et on rajoute merde, qui n'est plus une lettre du tout. Et donc, et ça mesure complètement un état de fatigue incroyable. Et donc, elle mesure
oui,
ça.
Oui, si c'est toujours les 5 mêmes lettres qui reviennent, ou si tu as une grande
exactement.
Palette.
Exactement. Donc,
ou...
elle a une manière, une formule qui permet de mesurer. Et je faisais ces tests tous les 4 jours. Et donc, elle peut voir l'évolution.
Ouais.
Et surtout, après, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Si tout d'un coup, il y a une chute brutale, je pourrais dire, ce jour-là, il a fait très froid, j'ai failli mourir, j'étais complètement HS et le lendemain, donc on essaie de comprendre. Et ce qu'on veut pouvoir déterminer, c'est quels sont les facteurs prépondérants qui amènent vers cette fatigue mentale. Est-ce que c'est le froid, la faim, la solitude, le manque de nourriture, la température trop haute ou trop basse? Pourquoi? Parce qu'on veut éviter qu'un explorateur fasse une grosse bêtise. Et à terme, sur Mars, on est encore loin d'aller sur Mars, mais si on pourrait avoir un test dans une montre avec un petit questionnaire de 30 secondes qui permet de donner un état mental basé sur la cognition. Donc, si par exemple l'astronaute il est sur Mars, il doit faire son test toutes les demi-heures, on lui pose 2-3 questions, je sais pas, enfin un petit protocole à faire et qu'on dit t'as 8 sur 10, c'est bon.
Tu peux continuer ou après
t'as 4 sur 10, tu t'arrêtes, t'appelles et quelqu'un vient te chercher. T'as 2 sur 10, tu bouges pas, tu déclenches ton signal de détresse parce que on sait que la prochaine décision que tu vas prendre
sera pas la bonne.
Sera débile quand même.
Elle disait aussi qu'à un moment on voit qu'il vaut mieux que tout soit déjà acquis avant de partir en aventure, pas commencer à vouloir apprendre en faisant, parce qu'elle disait qu'on n'est plus capable de vraiment apprendre efficacement.
Non, on sait pas.
Quand on est en cours d'expé.
Donc il y a des tests où qui est
ça,
un test de codification, donc on a les 9 chiffres au 1 correspond à un triangle, au 2 un rond, un carré, une croix, et en dessous on a un tableau avec croix, rond, carré, etc. Et on doit mettre le numéro qui correspond. Enfin, c'est le numéro et on doit dessiner ce qu'on sait.
Ouais.
Et généralement, on se dit, si on fait l'exercice tous les 4 jours, on va finir par mémoriser que le 1 c'est un triangle et le 2 c'est un rond, et on n'y arrive pas. Et que ce soit moi ou les autres qui sont passés avant, on n'y arrive pas. Parfois, il y a une petite amélioration, on en retient un ou deux. Mais retenir les 9, c'est 9 choses à retenir. C'est
rien. Pas grand-chose.
On n'y arrive pas.
Ah ouais.
Parce que le cerveau, dans l'état où on est, se dit, je n'ai pas besoin d'apprendre ou de retenir une nouvelle information, j'ai besoin de faire.
Ouais.
Et ce qu'on a déjà mesuré aujourd'hui, c'est que dans notre cas, la densité neuronale, pour ce qui est moteur, donc la motricité, donc bouger, augmente. Donc, c'est-à-dire que la manière de piloter les muscles, c'est ça, les nerfs, etc., c'est bien parce que c'est utile. Par contre, la partie mémoire, elle chute.
Ah ouais.
C'est comme si le corps disait bon, les mémoires, vous partez en vacances, je vous mets dans le fond du cerveau. Par contre, on va bouger beaucoup, donc tout ce qui gère la partie moteur, les yeux, l'ouïe, l'odorat, tout ça est augmenté aussi. On met tout ça devant, quoi, en priorité,
marrant,
on veut utiliser ça.
C'est quelque chose qui revient très très souvent chez les sportifs de haut niveau, commission d'expé, etc. Je l'ai déjà dit, tu comptes beaucoup plus sur ta tête que sur les muscles, mais voilà, tu disais que le corps forcément va influencer la tête, mais le dernier mot, quand les muscles sont déjà en train de crier « Eh oh les gars, faudrait qu'on s'arrête », la tête peut imposer de continuer.
Oui, et c'est là où on rentre dans la zone du danger, quoi. Il y a un livre d'ailleurs de ça, d'Alain Hubert, co-écrit avec lui, « Décider entre la raison et la passion. Et nous, la passion, bah, c'est l'objectif. On veut aller au bout, surtout quand on est proche du but, quoi. Mmh. Voilà, on dit souvent, oui, c'est 10% du corps, 90% la tête. Enfin, c'est pas possible de mettre un pourcentage là-dessus.
Non,
mais à un moment donné, cette espèce de motivation, ce drive, on dit en anglais, qui dit que... Enfin, ce drive qui nous donne cette discipline. C'est-à-dire, il est 4 heures du matin, ben, je me lève, hein, l'alarme, à 4 heures, c'est... « Allez, je vais encore faire la grasse mat pendant une heure. » Ben non, parce que si je fais la grasse mat une heure tous les jours et que je fais, admettons, 12 heures de progression sur la journée, ben après 12 jours, j'ai perdu un jour de progression. Quand on est en autonomie complète, et c'est pour ça que ce sont pour moi, hein, les expéditions les plus difficiles sont en autonomie complète, t'es obligé d'aller, entre guillemets, vite parce que t'es limité dans ton eau ou dans ta nourriture ou dans ton gaz ou par la saison aussi, parce que tout d'un coup, t'es en durée, t'es en été, mais tu vas vers l'automne,
ouais.
Et donc, à un moment donné, il va faire trop froid, ou si c'est une rivière qui va monter en crue, tu dois y arriver avant telle date parce qu'elle est encore basse, et si, sinon elle est trop haute et tu passes pas. Petit clin d'œil à Into the Wild.
Ouais,
le film,
c'est ça.
Voilà,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et donc, il y a plein d'éléments, et en fait, c'est un peu comme un alignement de planètes, c'est il faut que tout soit grosso modo aligné pour que ça passe. Mais après, voilà, faut gérer la solitude. Mais ça, je pour l'instant, je gère bien, sauf quand j'ai envie de frites.
Ouais. Justement, tu avais évolué comment ton état psychologique et qu'est-ce qui avait l'air de t'impacter?
Pour quelle expédition? La Tasmanie?
Tasmanie, pareil, oui, parce que là, ça avait l'air d'être la plus prenante.
Ah bah, j'avais... En fait, ça a commencé dur. Parce que déjà, le premier jour, c'était la drache. Et puis, après une bonne semaine, j'étais dans la partie alpine avec une bonne couche de neige et un vent qui est venu d'Antarctique, qui était le moment le plus froid, alors que j'étais encore grassouillé. Enfin, j'avais pris du poids avant de partir, hein. Je suis monté à 83, alors qu'un poids normal, je devrais être à 76, 75 idéalement. Il a fait très froid. Et en fait, c'était déjà très dur mentalement parce que je suivais une bête rando qui s'appelle le Penguin Trail, donc le chemin du pingouin, qui commence à un pingouin, enfin, littéralement une statue de 4 mètres de haut, une statue de pingouin, dans la ville de Pingouin.
Oh là, pour être sûr, voilà. Pour ceux qui n'ont pas le sang un peu dur de comprenure, comment dire.
Et donc il y a une plage forcément, de temps en temps il y a des pingouins sur la plage,
et qui s'appelle
forcément.
Penguin Beach,
probablement. Si toute la ville s'appelle déjà Penguin, bah, il n'y a pas photo. Et donc le Penguin Trail, c'est 5 jours de rando en été. Et quand j'arrive le bureau où il y a une personne qui peut potentiellement répondre, et on est en hiver, je dis, tiens, est-ce que vous savez s'il y a déjà des gens qui sont dessus, au cas où je les rattraperai avec mon sac à dos de 62 kilos sur le dos au départ, ce qui n'est évidemment pas possible. Et la dame me regarde, me dit, mais cette randonnée, ça fait au moins 2 ans qu'elle n'est plus maintenue. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui passe, et s'il y a un arbre qui est tombé, on va le scier pour remettre le passage. Et 2 ans avant... il y avait eu des grosses inondations et un gros orage, donc il y avait plusieurs arbres qui étaient tombés, mais ils n'avaient pas nettoyé, entre guillemets. Mm-hmm. Je dis, bon, enfin, on verra bien, quoi. Et donc, ben, faire cette rando aux 5 jours, j'ai mis 17 jours.
Oh.
Donc mentalement, on se dit, j'ai pris un peu de retard.
Ouais, c'est ça.
Et c'est très dur. Et surtout, début, la partie, je ne vais pas dire la plus dure, parce qu'après, c'est peut-être certainement plus facile, mais comme on est plus faible, ça reste toujours dur. Et on peut se faire mal tout le temps. Et tout bêtement, le 2e ou 3e jour, je tombe sur ma main, donc ma main se met sous mon derrière, à part que sous ma main, il y a une épine de branche d'à peu près 1,5 cm qui me rend... Je mets ma main
bien,
dessus,
oui, parce qu'avec la fesse...
Je tombe dessus avec ma fesse et le poids du sac à dos, et en plus, après, je glisse. Donc, c'est-à-dire que, ça rentre dedans, et après, ça déchire l'intérieur, ça avance, quoi. On se met à pisser le sang, ça dit « Ah merde, j'ai déjà viré le sac à dos ». Il faut se soigner et on perd une demi-heure, quoi. Et déjà, il faut déjà 2-3 minutes pour se lever, mettre le sac. Ça paraît con. Aujourd'hui, on dit, on prend le sac, c'est 3 secondes. Bah là, c'est 2-3 minutes, quoi. Le temps de le remettre. Je ne peux pas soulever un sac de 60 km sur le dos. Je dois le mettre à terre, m'asseoir, m'attacher au sac et essayer de me lever. Et puis tout d'un coup, on tombe en avant. Et on se retrouve comme une tortue ou sur le dos, hein, le sac à dos avec les 4 pattes en l'air. Donc voilà, la Tasmanie, c'est en hiver en tout cas, c'est l'endroit où on n'a pas intérêt à se faire mal. Il n'y a personne qui va vraiment venir me chercher, quoi.
Oui, mais tu disais que tu avais quand même failli mourir plusieurs fois là-bas en Tasmanie.
Oui. Et voilà, et donc superbe expé. Et franchement, parfois je me dis, j'ai presque envie de la refaire. Parce que je dis justement pour vraiment faire un film, parce que je sais que les images sont extraordinaires, mais je suis tellement passé par le chat de l'aiguille pour survivre, ou en tout cas pas me faire fortement mal, quoi, parce que... Ouais.
Comme on dit, il ne faut pas tenter le diable, surtout s'il est de Tasmanie. Tes prochains défis ?
Ah, il y en a beaucoup. Dans les futures expéditions, il y en a trois que j'ai vraiment envie de faire. Il y a une traversée du désert d'Atacama. À vol d'oiseau, c'est 1600 km. Et je passe, il y a forcément des villes, des villages que je veux potentiellement éviter. Mais il y a surtout des mines. Enfin, des mines, quand je dis mines, les mines dans lesquelles on creuse et on récupère du minerai. Et il vaut mieux peut-être pas rentrer sur le territoire de la mine, sinon il pourrait... Une balle perdue, ça arrive, entre guillemets, normalement pas au Chili, mais quand même.
Ouais.
Et puis, il y a des mines qui font boum de la guerre entre Pérou, Bolivie, Chili. Il y a une centaine d'années, 80 ans, un truc comme ça. Et là, j'ai intérêt de savoir où sont les terrains où il y a des mines.
Oui, clairement.
Donc, je dois aller voir les militaires, etc. Donc, il y a pas mal de préparation à ce niveau-là. Et savoir où il y a de l'eau, parce que je ne vais pas pouvoir prendre de l'eau pour 120 jours. Il y a une grosse expé. Donc, déjà, les trois sont trois premières mondiales. Il y a le tour du lac Nicaragua, que j'aimerais à la limite faire avec Gadiel. Donc c'est l'équivalent exactement ce qu'on a fait sur le Titicaca, mais au Nicaragua. Et il y a l'Islande, la traversée de l'Islande nord-sud en hiver, en plein hiver de nuit. Et ça, c'est très dangereux. Et là, ça, c'est un défi où il y a vraiment plusieurs personnes qui ont tenté. Ils ont tous, pour l'instant, tout le monde échoué. Et voilà, j'ai une idée pour... je vais pas dire éviter l'échec, ça, c'est pas possible, mais... lutter contre les problèmes qu'eux ont eus.
Mais tu as donc un défi très prochainement avec...
Et très prochainement, en décembre, donc théoriquement du 15 décembre au matin au 22 décembre au matin, je vais monter sur une plateforme qui sera d'à peu près de 5 mètres carrés et qui sera suspendue à une grue. Et je vais tenter d'y vivre en autonomie complète pendant une semaine. C'est un défi que je fais pour l'action Viva for Life de la RTBF, pour lequel j'espère que des personnes vont mettre des dons pour mon défi, pour m'encourager moi à rester et à tenir le coup, parce qu'évidemment au bord de l'hiver, aux portes de l'hiver à la mi-décembre, je vais avoir un peu froid, la plateforme ne sera normalement pas vraiment attachée, donc elle va bouger comme un pendule au gré du vent, et puis je suis limité en eau, en nourriture, et voilà, ça paraît très simple, mais c'est complexe, il faut fabriquer la plateforme, et voilà quoi, et là-dessus je vais évidemment faire un documentaire qui va expliquer comment on a fait toute la logistique et la construction de la plateforme, monter la plateforme, ce que je vais faire en haut de la plateforme, comment je vais manger, comment je vais vivre une semaine, comment va être mon interaction avec le public. J'espère qu'il y aura quelques personnes quand même qui vont venir sur la place voir, me faire coucou, que moi je puisse aussi en faire coucou et me sentir moins seul.
Tu seras un peu sur les réseaux sociaux, relayer ça sur les réseaux
sociaux. Oui. Je vais essayer de faire des live streams, peut-être une heure ou deux par jour.
Sur quelle plateforme est-ce que tu vas les faire ?
Bonne question. De toute façon, sur mon site web, c'est la page principale et là sera tout noté de ce que je vais faire.
Donc on mettra dans les notes de l'épisode.
Il y aura sûrement des lives Facebook ou YouTube, voire une webcam en permanence qui pourra me filmer de loin. Mm-hmm. On verra.
Ok. Dis-moi, l'état du monde te tracasse quand même, comme tout un chacun qui est plus ou moins conscient de ce qui se passe. Mais oui, voilà. Il y a quelque chose qui revient souvent, je trouve, dans ce qui donne l'espoir et ce qui fait vraiment changer les gens, c'est que pour protéger, il faut aimer. Et pour aimer, il faut avoir expérimenté.
Oui.
Et je sais bien que tu le disais, tu as été interviewé en Australie à la fin de ton expédition Tasmanie, je pense, par le courrier australien, c'est possible, quelque chose comme ça.
Oui.
Et c'est là que tu disais que tu aimerais donner envie aux gens d'aller faire des expérimentations dans la nature, de faire des expés plutôt que d'être collé dans un monde digital.
Voilà, expé ou en tout cas petit trip ou expérience outdoor ou simplement la randonnée. Ah oui, il est clair que pour comprendre, il faut expérimenter. C'est comme des gens qui... Moi, je ne vais pas critiquer des parents alors que je n'ai pas d'enfant moi-même ou pas encore. Donc voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne peux pas. Je ne suis pas légitime du tout. Et il est primordial. Et d'ailleurs, c'est même prescrit. Je crois que c'est en Écosse depuis déjà 3-4 ans. Les médecins peuvent prescrire comme médicament d'aller marcher dans les bois.
De
prendre un bol d'air, un bol de nature, c'est prescrit. Il faut reposer le cerveau. Donc moi, je suis beaucoup devant l'ordinateur, réseaux sociaux, enfin pas tant que ça sur réseaux sociaux non plus, mais beaucoup. Mais au moins une fois par an, en moyenne, j'ai comme ça mes 2-3 semaines où le seul écran que je regarde, c'est mon GPS et cumulatif, c'est 10 minutes par jour.
Mm-hmm.
Donc ça fait du bien. et c'est nécessaire.
On suivra aussi, on tiendra au courant de ton projet d'encyclopédie des expéditions. Ça,
oui,
c'est un chouette projet qui tient
ça,
à cœur.
C'est
aussi
un gros projet de créer cette encyclopédie des expéditions qui relie les expéditions, les personnes, les véhicules, les livres, les films, vraiment cet écosystème, et qui permet de se renseigner. Donc c'est d'avoir quelque chose de plus puissant qu'un Wikipédia, mais sur lesquels on peut faire des recherches poussées. Donc. Et voilà. Et lié à ça, il y a un équivalent pour monsieur et madame tout le monde qui est créé, le CV du voyage. Et c'est avec ce produit, on dirait Internet Web, que j'espère un jour avoir l'argent nécessaire pour payer les arbres. Et d'ailleurs, l'idée, c'est d'avoir par personne enregistrée sur le site un arbre de planté. Minimum, hein, si on peut en planter plus. On en plantera plus.
Et alors, il y a quelque chose de sympa aussi, c'est que tu es consultant pour ceux qui voudraient monter une expédition.
Oui, alors ça paraît très cher quand on voit les coûts. Mais après,
j'ai trouvé ça raisonnable par rapport à, voilà,
mais,
à l'expérience.
Mais après, par rapport à l'expérience, certains me disent que ça vaut beaucoup plus, parce que quand la vie parfois de la personne est en jeu. Et moi, mon parcours sur les déserts, bah aujourd'hui, à part John Muir qui a fait pas mal de trucs, mais au niveau des déserts aujourd'hui, c'est moi le plus expérimenté au monde dans une variété de déserts.
Donc ouais, non, ça c'était voilà. Chouette. Donc ça, on peut trouver sur ta page aussi. J'invite vraiment les gens à aller voir un peu tous tes exploits, toute la liste complète de ce que tu as déjà fait sur Wikipédia. La liste est impressionnante. Dis-moi, mon préféré dans les plus saugrenus, c'est évidemment la dégustation de chocolat la plus haute du monde.
Oui, c'est un truc bien belge. Il fallait que les Belges
exactement.
Soient là avant les Suisses. Point. Voilà. Et on l'a fait.
Yes, merci. Voilà. Un grand merci au nom de nos compatriotes. Voilà, merci aussi pour l'épisode. Merci pour le chocolat. Un tout, tout grand merci pour ton temps. C'était très sympa. Merci d'être venu à Namur dans un petit studio improvisé.
Salut à tous et bonne fête de fin d'année.
Cet épisode parviendra à tes oreilles juste un peu avant le défi Viva for Life de Luffy. Alors si tu es de la région de Tournai, passe lui montrer ton soutien. On peut aussi le suivre sur les réseaux sociaux. C'est pour la bonne cause. Pour suivre Louis-Philippe Long, cela se passe sur YouTube, Instagram et surtout sur son site web. Si tu as comme moi apprécié son humour, si en apprendre plus sur ses expéditions ou sur la manière de gérer des expés t'intéresse, suis bien son site à partir de 2022. Il prépare une tournée de conférences avec 4 films, notamment sur ses aventures en Laponie et en Tasmanie, et sera heureux d'y répondre à toutes les questions que tu pourrais te poser. Car pour Luffy, l'expérience est un bien précieux, et le but, c'est de la partager. J'ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode et sur la page web qui lui est consacrée. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Et comme il n'y a pas que sur les sapins que les étoiles c'est joli, je t'invite à donner une évaluation positive au podcast sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément également. Pour finir, je te dis un grand merci pour ton écoute. Elle fait déjà la différence. À bientôt.